Une vie, une œuvre, Martin Luther King, 1929, Atlanta, 1968, Memphis. Né Michael Luther King Jr., nous le connaissons tous sous le nom de Martin Luther King. Ses grands-pères et pères ont officié comme lui, en tant que pasteur, dans une église baptiste d'Atlanta. À Boston, il épouse Coretta Scott. Ils auront 4 enfants. En 1955, il soutient Rosa Parks, puis fonde le SCLC, Conférence des leaders chrétiens du Sud, et étend la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des États-Unis. Il effectue en 1959 un voyage en Inde et déclare « Je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte pour la justice et la dignité humaine. » Dans son discours du 28 août 1963, « I have a dream », il lance un appel pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits. En 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam. Martin Luther King meurt assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, alors qu'il soutenait une grève des boeurs. Michel Pomarède signe, avec Christine Diger, une vie, une œuvre, Martin Luther King.
Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Martin Luther King, la sentinelle de la nation américaine. Michel Pomarède, Christine Diger. Que reste-t-il de Martin Luther King aujourd'hui ? Un jour férié ? Un discours ? Une marche ? Une statue ? Non. Un homme, un pasteur, un révolutionnaire qui un jour a fait un rêve et qui rêve encore sans doute.
Réveille-toi, Martin. Réveille-toi. Ce n'est pas toi à l'avant-scène du rêve blanc. Ce n'est qu'un théâtre d'ombre noire. La même chose en plus dramatique, en plus romantique que ces minstrel shows que tu voyais dans ton enfance à Atlanta. Ces ancêtres du théâtre musical rendus fameux par le compositeur Daniel Decatur Emmett, bien avant la guerre de sécession. Ces blancs grimés en noir à grands traits de charbon de bois, caricaturant les noirs, faisant le bonheur des spectateurs blancs. Dans cette chronique inépuisable de la vie des noirs, trois personnages principaux. Zip Coon, Mr. Tambou, et Jim Crow.
Jim Crow est un personnage légendaire qui vient des scènes de théâtre.
L'historienne Sylvie Laurent.
Qui symbolise l'ensemble des stéréotypes, des fantasmes, des peurs et des désirs que la population blanche projette sur le noir. Et à l'origine, c'était un comédien du nom de Daddy Rice qui a compris qu'il pouvait faire fortune sur les scènes de ce qu'on appelait le vaudeville, qui est une forme d'ancêtre du théâtre, une forme de théâtre populaire de boulevard, si vous voulez, où les blancs allaient. Et ce comédien a inventé le personnage de Jim Crow, qui est le noir caricatural, qui n'est pas éduqué, qui a une espèce de parler très patoisant, et qui, par ses pantomimes, ses grosses mimiques et ses manières, évidemment c'est une représentation hyper racialisée et très raciste, du noir à faire rire les foules. Mais par extension, à partir de ce spectacle, Jim Crow est devenu le nom que l'on a donné à l'ensemble des mesures visant à instaurer un apartheid racial dans le sud des États-Unis. Peut-être faut-il revenir au fait que la grande guerre fondamentale qui a vu la naissance des États-Unis, on pense toujours à la guerre d'indépendance, mais les États-Unis ont eu plusieurs guerres, ils ont hoqueté un petit peu comme nous avant nos révolutions, avant d'arriver à la République. Et d'abord, ils ont eu la guerre d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et puis ensuite ils ont eu la guerre de sécession parce que leur modèle démocratique n'était pas achevé. Et à l'issue de cette guerre de sécession, les Noirs ont obtenu le droit de vote et la citoyenneté. Et cela a été intolérable à toute une partie du sud des États-Unis qui, vivant de l'exploitation de la force de travail des Noirs, a essayé de détourner la Constitution en mettant en place ces fameuses lois Jim Crow, c'est-à-dire le fait que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas partager les mêmes espaces publics, ne pouvaient pas avoir accès aux mêmes écoles, aux mêmes transports publics, sauf à la condition que les Noirs soient derrière et les Blancs devant. C'est donc la mise en place d'une justice à deux vitesses, d'une citoyenneté à deux vitesses, et c'est la confiscation de l'égalité raciale. On parle donc d'un système Jim Crow que la Cour suprême elle-même finira par valider, consistant à considérer que, voilà, les Noirs sont des citoyens de seconde zone. Et donc c'est devenu pour l'ensemble de l'Amérique noire le symbole même de l'injustice et de la discrimination. Every time I wheel about, I jump Jim Crow. Wheel about and turn about and do just so.
Every time I wheel about, I jump Jim Crow. Sylvie Laurent, Jim Crow, c'est 1828, c'est une danse donc interprétée par Thomas Dartmouth, dit Daddy Rice. Et la guerre d'indépendance, c'est 1861-1865, suivie de ce que vous appelez dans votre livre une période de reconstruction, 1867 et 1877, où notamment dans le sud des États-Unis, là où va naître Martin Luther King, les Noirs s'émancipent. Et avant Rosa Parks, 1955, des lavandières, 1881 à Atlanta, fonde un syndicat. Racontez-moi cette aventure de lavandière anonyme, quasiment oubliée de l'histoire, que vous remettez en lumière.
La reconstruction est une période extraordinaire. C'est peut-être la plus... Elle est méconnue, cette période, mais c'est peut-être le plus grand laboratoire démocratique de toute l'histoire américaine. C'est le moment pendant lequel l'armée du Nord, qui a vaincu le Sud raciste, occupe le Sud et impose par la force l'égalité sociale, l'égalité raciale et l'égalité politique. Et Atlanta est à cet égard une ville très intéressante parce que c'est à la fois une ville qui a vu émerger une petite classe moyenne, en particulier autour de cette rue Mount Auburn Street, et en même temps qui a un vaste prolétariat. Et ces femmes, parmi les premières, vont à Atlanta organiser l'arrêt du travail et puis des manifestations et puis demander, comme d'ailleurs à cette époque, on est dans la grande époque aussi populiste aux États-Unis, beaucoup de travailleurs pauvres se syndicalisent et demande la reconnaissance de droits sociaux. Ce qui est très intéressant, c'est à quel point cette revendication et ce mouvement des femmes des classes populaires noires préfigurent ce qui va se passer à Montgomery, où les premières à se mettre en route pour la lutte, ce sont les femmes travailleuses qui sont une espèce d'avant-garde du mouvement social. Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll.
Sylvie Laurent, resserrons la focale d'Atlanta et arrivons dans cette avenue qui s'appelle Sweet Auburn, rue entièrement noire. Et vous avez cette jolie formule où vous dites « Dans cette rue, la ségrégation s'est transformée en congrégation ». Donc les Noirs se sont soudés les uns aux autres. Il y a des ouvriers, il y a des pasteurs, il y a des musiciens, des hommes d'affaires. Et le 15 janvier 1929, naît Michael Luther King, qui deviendra en 1934 rebaptisé par son père Martin Luther King, du nom d'un ancien soldat devenu apôtre des pauvres, qui est Daddy King, le père... un des pères spirituels aussi de Martin Luther King.
Le père de Martin Luther King est lui-même fils d'un travailleur agricole qui a connu tout à fait la violence de Jim Crow et qui, lorsqu'il arrive à Atlanta, épouse la fille d'un des plus grands pasteurs de la ville. Et donc, Martin Luther King sera fils et petit-fils de pasteur. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, to the Lamb, 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 Lamb. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, picking on a harp with a golden string. Le père de Martin Luther King n'est pas n'importe quel pasteur, il est baptiste, mais il appartient à cette école qui sera tellement importante pour Martin Luther King, qui est celle du social gospel ou évangélisme social, c'est-à-dire cette catégorie du clergé qui est assez minoritaire, qui considère que la libération, ça n'est pas seulement entre les quatre murs de l'église, par le biais des métaphores et de la vie dans l'au-delà, et que ici il faut patienter parce qu'une fois que nous serons à côté du Très-Puissant, nous pourrons être libres. Pour le père de Martin Luther King, la liberté c'est maintenant et il faut avoir une action séculière pour l'obtenir. Donc c'est un militant. Il a par exemple été à la mairie d'Atlanta pour réclamer son inscription sur les listes électorales et c'est quelqu'un qui prêche tous les dimanches qu'il faut aider les pauvres, que nous ne sommes pas juste là pour célébrer Dieu et que célébrer Dieu et aimer Dieu, ça suppose d'aimer les plus faibles et les plus humiliés. Et donc Martin Luther King, qui est à la fois une mère musicienne très douce, qui lui donnera, il l'explique dans son autobiographie, le sens de sa valeur, le sens qu'il est quelqu'un et que jamais il ne devra laisser un blanc ou un autre l'humilier, et ce père, cette figure de l'intellectuel militant pasteur, qui est à la fois trop rigoriste pour le jeune Martin et qui en même temps est une figure identificatoire à laquelle il apportera la plus grande admiration jusqu'à la fin de ses jours.
Atlanta, siège historique de Coca-Cola. Firme qui transforma une boisson d'origine médicinale en une fontaine de rêves, qui inventa la publicité et la communication moderne basée sur la forme, à commencer par celle de ses bouteilles, faisant reteindre en rouge le manteau vert du Père Noël pour en faire l'ambassadeur de ses couleurs. Atlanta, qui avait été en 1939 la rampe de lancement d'Autant l'emporte le vent, pur produit de cette industrie du rêve américain qui investissait le monde et qui serait bientôt le siège de grands médias télévisés.
This is CNN breaking news.
CNN aujourd'hui. Une télévision qui commençait à prendre place au cœur de tous les foyers au moment même où débutait la lutte des droits civiques.
Et à la fois, quand vous avez écrit cette biographie de Martin Luther King, vous êtes reparti sur ses traces.
Oui.
Quelles sont les traces vivantes, visibles de Martin Luther King, notamment dans le sud des États-Unis?
Ben déjà, il y a le temple où il est officier, il y a sa maison qui est, mais aussi le boulevard Martin Luther King. Il y a des quantités de monuments ou de bâtiments qui s'appellent Martin Luther King. En fait, dès que vous arrivez déjà vers Atlanta, c'est indiqué. C'est quasiment la ville de Martin Luther King. On pourrait presque l'appeler Martin Luther King City, vous voyez. Donc il y a une très très forte présence de Martin Luther King dans le sud. C'est très frappant.
Est-ce que vous êtes allé dans sa rue où il est né?
Absolument.
Et est-ce que c'était une rue essentiellement noire?
Et le reste.
Et comment est-ce que l'esprit, on pourrait dire, de Martin Luther King plane encore dans cette avenue d'Atlanta?
Ce qui est très frappant, c'est les temples. Et justement, quand on entre dans ce fameux temple où son père lui-même et son grand-père en tant qu'officier, on retrouve l'esprit de Martin Luther King, on retrouve le type de prêche. On peut effectivement voir que le combat de Martin Luther King perdure et est très présent dans cette rue-là.
This morning, I would like to use as a subject from which to preach the drum major instinct. The drum major instinct.
Sylvie Laurent, sa mère lui dit « Ne te fais pas humilier ». À 10 ans, Martin Luther King veut être comme son père, doué de mots formidables, c'est une de vos citations. Mais quand il a 15 ans, une scène fondatrice, on est en 1944, il remporte le premier prix d'éloquence pour un texte « Le Noir et la Constitution » qu'il vient de dire à Dublin en Géorgie. Il prend le bus pour rentrer chez lui, 130 km, et il est fait debout, humilié par un blanc. Parce qu'à l'époque, on cède sa place à un blanc.
Martin Luther King l'a grandi dans un milieu noir, un milieu privilégié, plutôt classe moyenne. On n'avait pas tellement d'interactions avec les Blancs, donc l'expérience de l'identité raciale et de l'assignation, il ne l'a pas vécue jusqu'à ce moment-là. Alors c'est d'une ironie absolument remarquable. Il va gagner un concours d'éloquence et ce texte qui s'appelle « Le Noir et la Constitution » qu'il écrit à 15 ans est un texte nourri de Du Bois et de Frédéric Douglas et de tous les grands penseurs noirs qui dit « La Constitution est un texte qui donne la pleine citoyenneté aux Noirs, mais elle a été confisquée. Relisez-la, revenez à la lettre de la Constitution. » Donc c'est à la fois d'une maturité extraordinaire et en même temps c'est le même discours qu'il va répéter toute sa vie.
Le même discours toute sa vie, comme lorsqu'à 35 ans, il devient le plus jeune récipiendaire de l'histoire à recevoir le prix Nobel de la paix.
I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States.
J'accepte le prix Nobel de la paix en un moment où 22 millions de Noirs des États-Unis sont engagés dans une bataille constructive pour mettre fin à la nuit de l'injustice raciale. J'accepte cet honneur avec la conviction que le mouvement pour les droits civiques, qui avance avec détermination, établira le règne de la justice et les règles de la liberté.
Avant de devenir pasteur, Martin Luther King veut s'émanciper, on pourrait dire, du joug paternel et veut devenir avocat, voire médecin. Et donc, il quitte son havre de paix de Sweet Auburn pour aller à l'université de Morehouse. Et là, il rencontre un nouveau père spirituel, on pourrait dire, Benjamin Mace, qui lui-même était parti en Inde en 1936 et avait rencontré Gandhi. Et est-ce qu'à travers Benjamin Mace, on a les premiers contacts entre Martin Luther King et cette pensée de la non-violence prophétisée et incarnée par Gandhi ?
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it.
Le plus intéressant et le plus fou, c'est que Gandhi lui-même a lu le penseur de la dissidence qui est né aux États-Unis, qui s'appelle Henry David Thoreau, le philosophe de la désobéissance civile, et que King lui-même commence par lire Thoreau, puis lit Gandhi, sans savoir que Gandhi lui-même avait lu Thoreau, que Gandhi lui-même avait lu Tolstoï, et que donc il était nourri de cette pensée chrétienne et du sermon à la montagne de tendre l'autre joue. Et il y a cette espèce d'étrange cosmopolitisme transatlantique qui fait que la pensée de la désobéissance civile parvient jusqu'à Martin Luther King. Et un peu plus tard, il assiste à une conférence donnée sur Gandhi qui le fascine littéralement. Il achète tous les livres et ce petit supplément théorique, et il le trouvera aussi chez Marx, consistant à dire que finalement, les masses, à condition de s'unir et de se discipliner dans une forme de non-violence subversive, peuvent obtenir la révolution.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh.
La non-violence, conçue et agie par Gandhi, reprise par Martin Luther King, expliquée par le pasteur baptiste d'origine américaine, William Hatton.
Tout d'abord, cette méthode n'est pas pour les lâches. Il faut avoir du courage. Elle implique une qualité spirituelle et un courage personnel. Convaincre et non vaincre. Le but est toujours la réconciliation, disait-il. Il dit, de même, la victoire sera celle de la justice et de l'amour, non celle de telle ou telle personne. Elle implique l'acceptation de la souffrance, sans désir de vengeance. Le sacrifice de soi est la meilleure preuve d'une volonté de service de l'humanité. Elle évite non seulement la violence extérieure du corps, mais aussi la violence intérieure de l'esprit. Elle se fonde sur la conviction que l'univers est à la recherche d'une harmonie morale qui sera faite de justice et de liberté. Dieu lui-même est aux côtés de ceux qui luttent pour cette justice et cette liberté.
When I say Black Lives Matter, that don't mean yours don't. When I say Black Lives Matter, don't mean white folks can't get on the boat. So we gotta reprogram these social lies and take back our streets. And we gonna keep screaming, fighting, marching, and cussing until we abolish injustice. Make sure they put on my tombstone. Damn right, Black Lives Matter.
Et à la fois que vous êtes allé à Atlanta, est-ce que vous êtes allé à Montgomery, Alabama?
Absolument, oui.
Et là, c'est là, on disait Rosa Parks s'est assise définitivement dans son bus pour ne pas céder sa place à un blanc le 1er décembre 1955. Mais outre le bus, outre le symbole, qu'est-ce qu'il y a dans l'air à Montgomery, Alabama, aujourd'hui aux États-Unis?
Ça ne se perçoit pas très bien. Ce sont des villes tout à fait propres, tout à fait bourgeoises. Donc, c'est d'ailleurs étonnant. On se dit comment ça a pu se produire dans une ville pareille. Ça ne se perçoit plus tellement à cet endroit-là. No road left. What do we want? Peace. What do we want? Yeah. What do we want? Peace. What do we want? Yeah. Peace in the street. Peace in the street. Peace in the street. Peace in the
street. Peace in the street. It's incredible. Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, réalisatrice, activiste. En 2009, au moment de l'investiture de Barack Obama, il y avait un badge qui disait « Rosa Parks s'est assise pour que Martin Luther King puisse marcher. Martin Luther King a marché pour qu'Obama puisse courir vers la présidence. Obama a couru pour que nos enfants puissent voler. » Aujourd'hui, qu'est-ce que vous écririez comme phrase pour compléter le badge?
C'est difficile de compléter ce badge parce qu'aujourd'hui, avec des mouvements comme Black Lives Matter, on en est à demander simplement le droit à ce que les Noirs aient le droit de vivre en sécurité. Je dirais pas que c'est un recul, mais c'est une interrogation tellement essentielle que près de 50 ans après la mort de Martin Luther King, la question de la sécurité, du droit de vivre des Noirs se pose d'une manière qu'on n'aurait pas imaginée au moment de l'élection de Barack Obama.
J'ai un chiffre, Rokhaya Diallo. En moyenne, entre 1876 et 1965, 39 personnes noires étaient lynchées par an. 258 Afro-Américains ont été tués par la police en 2015. En 2013, le jeune donc Trayvon Martin, qui portait une capuche sur la tête, a été tué par un vigile, lequel vigile a été relaxé. Donc un hashtag est arrivé, lancé par trois activistes Black Lives Matter. Est-ce que ce mouvement, c'est un nouveau souffle Black Power qui va vers Malcolm X ou qui va vers Martin Luther King?
Alors, pour moi, Black Lives Matter, c'est l'héritage à la fois de Malcolm X et de Martin Luther King. Je pense qu'on a tendance à caricaturer ces deux figures de la lutte pour les droits des Noirs de manière un peu schématique. C'est-à-dire que d'un côté, on a le paisible Martin Luther King et de l'autre, on aurait le violent Malcolm X, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui se connaissaient. Et puis, l'engagement de Martin Luther King était beaucoup plus radical que ce qu'on disait. Le sentiment que j'ai, c'est que sa figure a été un peu édulcorée. On pourrait réhabiliter la figure de Martin Luther King si on lui rendait sa complexité. Et là, il serait vraiment, vraiment une figure extrêmement inspirante pour les plus jeunes. I come to this magnificent house of worship tonight because my conscience leaves me no other choice. A true revolution of values will lay hand on the world order and say of war. This way of settling differences is not just. This business of burning human beings with napalm.
Progressivement, on voit émerger celui que vous appelez la sentinelle de la nation américaine, Martin Luther King, notamment dans son premier sermon, je cite, « Conduire les hommes et les femmes sur la haute montagne de la paix et du salut ». Il est jeune pourtant à cette époque-là.
Conduire, oui. Alors c'est toute la grande question qui va le tourmenter pendant toute son existence. C'est les masses, les hommes qui se révoltent, ont-ils besoin d'un chef? Ont-ils besoin d'un guide? Ont-ils besoin d'un leader? Donc en pasteur, qui est aussi celui qui guide les brebis égarées, il a cette idée qu'il faut quelqu'un pour montrer la voie, pour être le porte-parole, et que cette lutte noire, qui ne l'a certes pas attendue et qui existe depuis des décennies, peut trouver sa force à condition d'avoir une direction unique. Et donc, en effet, il va commencer par prêcher l'insoumission à chacun de ses sermons à l'église et ailleurs, et puis ensuite le destin l'appellera pour une dimension régionale et puis ensuite nationale de la parole subversive.
« 28 août 1963, Washington, début peu connu du fameux discours « J'ai fait un rêve ».
Nous sommes 100 ans après l'abolition de l'esclavage dans notre pays. Et le noir n'est toujours pas libre. Nous sommes 100 ans après. Et la vie que mène le noir est tristement handicapée par les boulets de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. Nous sommes 100 ans après, et le noir habite sur une île de pauvreté, dans un vaste océan de matérialité et de prospérité. Nous sommes 100 ans après. Et le noir est toujours enfermé dans un coin de la société américaine. Il se retrouve comme exilé dans son propre pays. Nous sommes venus ici pour dénoncer ces conditions de vie honteuses. En un sens, nous sommes venus ici dans la capitale fédérale pour qu'on nous paye notre dû.
Alors il avait, parce que son père et son grand-père avaient été pasteurs et prêcheurs, il avait cette qualité de savoir extrêmement bien s'exprimer. Et puis, ce qui était frappant aussi, c'est sa voix, qui est une voix quasiment de chanteur, une voix très musicale. Et il a hérité comme ça aussi de cette voix du chant gospel que l'on trouve dans tous les États-Unis et qui en fait a été un des conducteurs de cette révolution. Lui-même, il a dit à un moment donné, la musique est notre arme de guerre. Lorsque vous écoutez ses discours, c'est pas seulement le contenu qui est frappant, c'est la mélodie, c'est le rythme. Et c'est un rythme particulièrement fort. Et je pense que ce rythme-là et cette mélodie-là étaient aussi pensés pour toucher à la fois les Noirs et les Blancs. Parce que d'une certaine manière, les Blancs eux-mêmes étaient imprégnés de cette musique noire depuis le biberon, depuis que leur nounou noire leur chantait des berceuses. Et donc d'une façon presque inconsciente, le message passait à travers la musique.
Luther King a commencé à Montgomery, c'était son premier pastorat, son premier poste, première église, et qu'ils ont commencé le boycott des bustes qui a duré un an. Quelqu'un lui a dit, tu es menacé, il faut avoir un revolver, et donc ils lui ont donné un revolver qu'il a gardé pendant un temps, mais après, il s'est rendu compte que ça n'allait pas avec les principes dont il prêchait. Et il fait cette distinction entre non-violence comme tactique et style de vie. Donc lui-même, il a dû passer de la théorie et commencer à appliquer cette tactique non-violente pour devenir lui-même un non-violent. Il a fallu un peu de temps, mais il est arrivé.
I'm just happy that God has allowed me to live in this period to see what is unfolding. And I'm happy that He's allowed me to be in Memphis.
Cette idée de la peur, vous savez, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La mort était la compagne de Martin Luther King et qu'on peut comprendre son existence sans comprendre que dès l'âge de 28 ans, il a dû faire face au plasticage de sa maison alors que sa femme et ses deux enfants en bas âge y dormaient, qu'il reçoit quotidiennement des menaces de mort par téléphone, des lettres. Le FBI lui-même lui enverra une lettre anonyme pour l'appeler au suicide. Il a été poignardé par une femme noire qui n'avait plus toute sa tête alors qu'il était à Harlem pour signer ce fameux livre dans une librairie. C'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il faut vivre avec la mort et qui, en même temps, ne peut pas se permettre de se laisser paralyser par la peur. Parce que si lui a peur, alors qu'en est-il de ces milliers de Noirs qui, chaque jour, vivent sous la menace de la répression, de l'exécution, du clan ou de la violence des Blancs au Sud? Et donc, il est censé, lui, un peu dans une image christique, dépasser la peur, et la chose qui lui permet cela, c'est la foi.
Le texte du sermon de ce matin est tiré d'un passage fameux du 10e chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Au 35e verset, nous relevons ces mots.
James and John, the sons of Zebedee,
Jacques et Jean, fils de Zébédée,
came unto him saying, Master,
vinrent à trouver Jésus et lui dire, Seigneur, nous aimerions que tu fasses pour nous ce que nous désirons. Jésus répondit, que voulez-vous que je fasse pour vous? La réponse fut, que nous puissions nous asseoir à ta droite et à ta gauche. Et dans ta gloire. Mais Jésus dit, sans tenir compte de la demande, voulez-vous boire dans la coupe où j'ai bu? Voulez-vous recevoir le même baptême que moi? Et la réponse fut, oui, nous le voulons.
Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I'm tired.
Mais Sylvie Laurent, le pasteur King vit avec la peur, côtoie la mort, mais il fait face aussi à l'adversité même dans son propre camp. Je cite Malcolm X, 1952. L'intégration est un leurre et King est la meilleure arme que les Blancs aient trouvée. Un peu plus tard, King est l'oncle Tom qui demande aux Noirs de tendre la joue. James Baldwin, le grand écrivain noir, dit « la route dangereuse qui s'ouvre devant Martin Luther King » et lui dit, même « bah King c'est bien, mais il a une aura dans le Sud, aucune dans le Nord, c'est juste un pasteur du Sud ». Donc il y a aussi des voix dissidentes qui critiquent sa foi et cette façon de s'adresser aux siens avec la non-violence.
Les premiers d'ailleurs à contester cette vision religieuse, de classe moyenne, qui s'inscrit dans le long terme de l'émancipation, mais avec l'idée qu'il fallait forcément négocier avec les Blancs et accepter certains arbitrages, même s'ils étaient douloureux. Les premiers à contester ça, ce sont les jeunes du Sud. Et ces jeunes étudiants s'organisent sans accepter d'être soumis à la parole de Martin Luther King. Eux, ils ne veulent pas. Martin Luther King a 30 ans, pour eux c'est un vieux, il appartient à une autre génération. Eux, ils veulent faire la révolution ici et maintenant, certes non violente, mais avec la provocation, avec l'action directe, avec la confrontation.
La confrontation, c'est bien ce que l'on trouve dans cette lettre du 16 avril 1963, adressée par le pasteur King aux bien-pensants de la ville de Birmingham. Il est alors emprisonné pour la 13e fois.
Je dois vous faire deux aveux sincères, mes frères chrétiens et juifs. Tout d'abord, je dois vous avouer que ces dernières années, j'étais gravement déçu par les Blancs modérés. Je suis presque arrivé à la conclusion regrettable que le grand obstacle opposé aux Noirs en lutte pour leur liberté, ce n'est pas le membre du Conseil des citoyens blancs, ni celui du Ku Klux Klan, mais le Blanc modéré, qui est plus attaché à l'ordre qu'à la justice, qui préfère une paix négative, issue d'une absence de tension, à une paix positive, issue d'une victoire de la justice, qui répète constamment « je suis d'accord avec vous sur les objectifs, mais je ne peux approuver vos méthodes d'action directe », qui croit pouvoir fixer en bon paternaliste un calendrier pour la libération d'un autre homme, qui cultive le mythe du temps qui travaille pour vous et conseille constamment aux Noirs d'attendre un moment plus opportun.
Cette lettre de la prison de Birmingham, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature de captivité dans l'histoire des nombreux prisonniers politiques du monde, c'est un texte qui explique que vous dites de moi que je suis un extrémiste, après tout pourquoi pas? Définissons ce qu'est un extrémiste, je crois bien que Jésus était le premier des extrémistes et j'accepte d'être extrémiste si être modéré, être raisonnable, c'est se complaire dans ce gradualisme visqueux qui est en fait ce que tous les conservateurs du monde utilisent pour justifier le status quo. Et donc c'est une grande exploration de la dissidence et de la désobéissance et de la vertu démocratique de celui qui se lève et qui dit « je refuse ».
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.
It was sung.
It was sung by immigrants as they struck out to the distant shore of pioneers who pushed westward.
Olivier Richaume, vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'Université Lyon 2 Lumière. Le troisième lundi de janvier, c'est jour férié dans le calendrier américain depuis 1983. C'est le Martin Luther King Day. Et Martin Luther King a d'ailleurs sa statue à Washington entre celle de Lincoln, qui, rappelons-le, a aboli l'esclavage en 1863, et Jefferson. Mais à part ce jour férié et cette statue, à part ce passé muséifié, quel est selon vous le legs du pasteur noir dans l'Amérique d'aujourd'hui ?
On voit que l'héritage de Martin Luther King est extrêmement présent dans certaines parties de la population, notamment dans les églises qui ont construit des luttes sociales à la suite du mouvement pour les droits civiques. On a vu aussi une partie de la jeunesse américaine qui a essayé d'émuler un petit peu avec Black Lives Matter l'héritage du pasteur. On voit qu'aujourd'hui que les minorités afro-américaines, en particulier à travers le mouvement Black Lives Matter, demandent est difficilement atteignable d'un point de vue législatif.
Question toute simple, est-ce que Barack Obama, en deux mandats, a trahi le legs de Martin Luther King ?
Si on regarde les résultats législatifs, effectivement, on se rend compte que Barack Obama n'a pas réussi à faire passer des réformes aussi spectaculaires qu'on attendait. Le problème, c'est que on fait porter à Barack Obama une trop grande responsabilité. Barack Obama n'a jamais été élu pour être le fils spirituel de Martin Luther King, même si il en a joué un petit peu dans la campagne quand il s'appelait la génération Joshua, parce qu'ils étaient ces jeunes afro-américains qui étaient sur les épaules des Moïse qui sont venus avant eux. Barack Obama n'est pas un pasteur. Il a complètement court-circuité les églises afro-américaines et tout le circuit traditionnel des afro-américains pour se faire élire. En fait, c'était un candidat, on va dire, plus traditionnel, normal dans un sens. Et donc, cet héritage des droits civiques, on va dire, il le porte malgré lui. Il n'a jamais voulu être le candidat de la cause noire pour les Noirs.
Alors, j'ai compris, Olivier Richaume, Barack Obama n'est pas le fils spirituel de Martin Luther King. C'est le premier président noir, ministre de la Défense noir, ministre de la Justice noir, au niveau symbolique, pas au niveau législatif, au niveau politique. Est-ce que c'est aussi une faillite du symbole de ces personnalités noires par rapport à ce qu'attendait la minorité noire qui a grandi avec ses luttes, avec ce père fondateur qui était Martin Luther King ?
Alors au niveau symbolique, oui, effectivement. Et lorsque vous discutez avec des gens dans la communauté afro-américaine aux États-Unis, on attendait beaucoup d'un candidat qui, voilà, il y a les freins et les pesanteurs institutionnels. Et on a fait porter beaucoup à ce candidat à la hauteur des espoirs que son élection avait suscité. Mais on s'est rendu compte aussi que d'un point de vue local, les communautés afro-américaines ou les communautés pour les droits civiques avaient aussi beaucoup de mal à faire entendre leurs revendications, à s'organiser politiquement et à créer, on va dire, l'état d'esprit qu'on a connu dans les années 60 avec le mouvement pour les droits civiques.
Nous avons assez de l'oppression, nous en avons assez d'être trompés. Nous en avons assez de vivre dans des taudis infestés par les rats. Et nous ne voulons plus que nos enfants aillent dans des écoles de mauvaise éducation et de mauvaise construction. Nous en avons assez d'être au niveau le plus bas de la société. Nous en avons assez d'être les plus pauvres parmi les pauvres. Et nous ne voulons pas rester en bordure de la vie américaine. Nous voulons participer au courant de la vie américaine. Nous voulons profiter de tous nos droits. Nous aimons et nous révérons le pays d'où sont venus nos aïeux, l'Afrique. Nous admirons profondément ceux qui ont mené les pays d'Afrique à l'indépendance, mais nous voulons malgré tout vivre en Amérique, nous voulons vivre aux États-Unis, parce que c'est là le pays où nous sommes nés.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Le 22 novembre 1963, assassinat de Kennedy à Dallas. Réaction de Martin Luther King, c'est ça qui va m'arriver, je n'aurai jamais 40 ans. Sylvie Laurent, est-ce parce que Kennedy a été assassiné en 63 que son vice-président qui lui succède, Lyndon Johnson, signe la loi pour les droits civiques le 2 juillet 1964 et ensuite, le 6 août 1965, le droit de vote pour tous?
Certainement que l'assassinat de Kennedy a débloqué son projet de loi sur le droit de vote des Noirs, était sur le bureau des sénateurs depuis plusieurs mois, que c'était l'objet d'un blocage institutionnel de la part en particulier des élus du Sud qui ne voulaient en aucun cas que ce soit le cas. Et lorsque Johnson, ce vice-président qui vient du Texas, dont on peut penser qu'il est le pire des suprémacistes blancs, puisque c'est sa culture, devient président des États-Unis, il a à cœur, parce que lui-même a beaucoup travaillé derrière les portes des bureaux ministériels depuis des années à la question raciale, il parvient à persuader chacun des parlementaires que, parce que c'était ce que Kennedy voulait, le plus grand des hommages, le plus grand des mémoriaux à ce président tant aimé serait de faire enfin voter cette loi. Et pendant le même temps, ça n'est pas Johnson tout seul, les activistes noirs derrière Martin Luther King continuent à manifester, continuent à protester, continuent à s'assurer que les journalistes diffusent les images quotidiennes de la violence. On a parlé de la marche sur Washington qui a donné cette grande image de fraternité interraciale. Rappelons que quelques jours après, la réaction du sud des États-Unis a été de poser une bombe dans une église de Birmingham dans l'Alabama, que quatre petites filles noires sont mortes et c'était le prix à payer pour l'audace qu'avait eu les Noirs de défiler à Washington. Donc la pression des Noirs est continue. Johnson lui-même veut faire passer cette loi. Les parlementaires sudistes se font tordre le bras les uns après les autres et en effet, finalement, en 1964, est votée la loi qui met fin à la ségrégation légale au Sud. Et en 1965, sont abolies toutes les mesures visant à restreindre le droit de vote des Noirs. Donc enfin, techniquement, en 65, les Noirs sont des citoyens à part entière.
Je tiens d'abord à féliciter le président pour le vote de cette nouvelle loi sur les droits civiques. Le président a combattu sans relâche pour le passage de cette loi et cette loi constitue effectivement un grand pas en avant qui va permettre d'enlever tous les obstacles qui s'opposent au droit de vote des Noirs. J'ai aussi demandé au président que dès la signature de la loi sur les droits civiques, il fasse envoyer le plus vite possible, immédiatement même, des agents fédéraux dans les comtés du Sud pour assurer l'inscription des Noirs sur les registres électoraux. Au cours des prochains jours, dans plusieurs comtés, dans plusieurs États, nous pourrions doubler le nombre d'électeurs inscrits.
À la fois, vous êtes reparti aux États-Unis, vous êtes reparti sur les traces de Martin Luther King. Vous avez vu la statue de Martin Luther King à Washington ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'en faire une description ?
C'est une grande statue, mais alors il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus parce que beaucoup de gens trouvaient que c'était pas ressemblant, qu'elle était trop grande, etc. Je l'ai vue, je trouve que bon, voilà, c'est une statue, elle est intéressante comme statue, mais après, une statue, c'est ce qu'elle raconte, où elle est située, comment ça parle du personnage, et donc c'est juste un point à partir duquel on peut développer la pensée, une histoire, une réflexion.
Si on prend des discours qui sont inscrits à côté de sa statue à Washington, on a pris des discours, parmi ces discours, ceux qui étaient les plus consensuels. Il a tenu des discours extrêmement radicaux. Il a commis des écrits qui peuvent aussi bousculer des gens aujourd'hui.
Alors justement, cette statue, elle est encadrée par deux hommes blancs américains,
oui.
Lincoln et Jefferson.
Oui.
Tout un symbole.
Oui, c'est tout un symbole. Ben, il faut savoir que quand même, c'est sur les quasiment sur les genoux de Lincoln que Martin Luther King a fait sa fameuse déclaration « I have a dream hein, » de cette grande statue. Je pense que c'est très important. Ils sont pas seulement blancs. Ils sont défenseurs d'une certaine façon, d'une certaine idée de la démocratie aux États-Unis, d'une certaine idée de ce que doit être l'Amérique.
Pour défendre son idée d'une Amérique pacifique et non impérialiste, Martin Luther King se dresse le 4 avril 1967, telle une sentinelle face à la nation américaine.
Le sermon que je vais faire ce matin n'est pas un texte habituel. Mais c'est un sermon. C'est un sujet important, malgré tout. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet controversé dans notre pays.
I'm using as a subject from which to preach why I am opposed.
Je voudrais vous exposer pourquoi je suis opposé
to the war in Vietnam.
À la guerre au Vietnam.
Now let me make it clear in the beginning.
Et je vais être clair dès le début.
That I see this war as
je considère cette guerre
an unjust,
comme injuste,
evil and
maléfique
evil war.
Et futile.
I preach to you today on the war in Vietnam.
Je m'adresse à vous aujourd'hui sur la guerre au Vietnam car ma conscience
leaves me with no other
ne me laisse
choice.
Pas d'autre choix. Le moment est arrivé pour l'Amérique d'entendre la vérité.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
C'est là la grande chose tragique avec l'histoire des dissidents, c'est que, avec son prix Nobel en 64, il atteint le sommet de sa popularité. Tout le monde est ami de Martin Luther King, les présidents, les députés. Il est l'image de cette Amérique qui a réussi à dépasser ses contradictions initiales. Sauf que ni Martin Luther King, ni l'ensemble des militants de la libération noire ne sont dupes. La liberté formelle, le droit de vote et la possibilité de ne plus être ségrégué, c'est une chose, mais ça n'est qu'un premier pas. Il faut réformer l'ensemble du système parce que l'égalité raciale, c'est autre chose. C'est l'égalité de salaire, l'égalité de logement, l'égalité face à l'emploi. Et donc, il continue à militer. Et Martin Luther King dit très bien, nous avons obtenu une part de la liberté. Mais la liberté n'est pas l'égalité. Et donc, il étend son combat. Et son idée est que on ne peut réformer les États-Unis que si on le prend globalement. C'est-à-dire que lui, il dénonce ce qu'il appelle le triptyque de la maladie américaine, l'impérialisme, le capitalisme et le racisme. Pour lui, ce qui fait que l'Amérique est un pays malade, c'est que sa recherche éperdue du profit et de l'accumulation des biens matériels l'amène à imposer son pouvoir de façon arbitraire dans le monde sur les populations de couleur, et que c'est en retour ce qui justifie l'exploitation et l'assujettissement des Noirs aux États-Unis. Et donc il déploie une critique qui devient intolérable à l'opinion publique américaine. Et alors qu'il est un des hommes les plus populaires en 1964, quelques années après, il ne fait même plus partie dans le classement de Time Magazine des 10 Américains les plus importants. Subitement, il déchoit. Subitement, il devient anti-américain. À partir de 67, il dénonce cette guerre du Vietnam à l'unisson de tous ces jeunes manifestants dans les rues à cheveux longs qui commencent eux aussi à contester ce modèle américain. Et donc, il devient indésirable. Martin Luther King, qui était le héros national, celui que tout le monde encensait, devient un subversif, et les trois dernières années de sa vie, pendant lesquelles il s'installe dans un ghetto de Chicago, il demande la justice véritable, l'union des pauvres contre les possédants et la fin de la guerre. Eh bien, c'est un Martin Luther King isolé, solitaire, rejeté à la fois par les pouvoirs publics et par les médias, qui est peut-être le plus admirable de tous les Martin Luther King. C'est lorsqu'il est seul qu'il est isolé, qu'il semble être complètement démonétisé et qu'il est le plus radical, qu'il est peut-être le plus fort.
Dans cette nuit du 3 avril 1968, sur l'autoroute 55, une Ford Mustang blanche passe à vive allure sur le pont qui sépare l'Arkansas du Mississippi en direction de Memphis. Avant d'emprunter Winchester Avenue, il croise cette grande artère passant devant Graceland, qu'on nomme aujourd'hui Elvis Presley Boulevard, la maison de l'autre King, celui du rock'n'roll, qui prépare justement son comeback après 10 ans d'absence. Il ne sait pas encore qui chantera dans 2 mois, en juin, cette chanson bouleversante.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true?
Dans votre biographie, Alain Foy, vous étirez le jour de la mort de Martin Luther King, 4 avril 1968, Memphis, Tennessee, Lorraine Motel, description.
C'est ce moment-là où Martin Luther King va préparer la marche des pauvres gens en soutenant la révolte, la grève des éboueurs qui sont des quasi-esclaves, très maltraités, etc. Il est dans la chambre du Lorraine Motel et il sent déjà sa mort venir. Il le sent. Et il y a beaucoup de témoignages à cela. Sa dernière allocution publique au Mason Temple, où tout le monde rejoint son combat, il va dire qu'il n'a plus peur de rien.
Nous avons des jours sombres devant nous. Mais cela n'a pas d'importance pour moi. Car je suis arrivé au sommet de la montagne. Cela m'est égal. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. Mais cela ne me concerne plus maintenant. Je veux juste me soumettre à la volonté de Dieu. Et il m'a permis de gravir la montagne. Et j'ai regardé. Et j'ai vu la terre promise. Peut-être n'y arriverai-je pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez ce soir que notre peuple atteindra cette terre promise. Donc je suis heureux ce soir. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Car j'ai vu. J'ai vu la gloire et l'arrivée du Seigneur.
Avril 1968, la balle arrive dans le front de Martin Luther King au Lorraine Motel Memphis, Tennessee. Mais description de ce Lorraine Motel aujourd'hui à Memphis, Tennessee, la voiture de Martin Luther King est toujours garée sur le parking. Est-ce que c'est devenu un monument pour les habitants de la ville.
Absolument, c'est plus qu'un monument, d'ailleurs c'est devenu un musée où on peut retrouver d'ailleurs toute l'histoire du combat des droits civiques.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Celui qui met fin à la vie de Martin Luther King, c'est un criminel évadé d'un pénitencier du Missouri.
James Earl Ray sera capturé à l'aéroport Heathrow de Londres 2 mois après la mort de Martin Luther King, tandis qu'il essayait, avec un faux passeport canadien au nom de Raymond George Sainted, de quitter le Royaume-Uni où il s'était réfugié. Il détenait plusieurs passeports qui lui auraient été fournis par la FBI via la mafia.
Sylvie Laurent, Martin Luther King a connu la gloire, a connu la prison, a connu la solitude. Il va rencontrer la mort comme Malcolm X a rencontré la sienne le 21 février 1965. Et la mort l'attend, il a 39 ans, mais son corps dit qu'il a 65 ans.
Lorsque les légistes à l'hôpital regardent son corps, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui a vécu 20 vies. C'est un corps épuisé et un corps sublimé par le combat et l'amour que le peuple noir lui a porté, qui ensuite est ramené dans sa ville d'Atlanta et qui est enterré dans une cérémonie où le coffre est ouvert et où on peut le voir et avoir le sentiment que derrière ce visage poupin, il y a encore cet enfant de 15 ans qui écrivait Le Noir et la Constitution et qui pendant 25 ans n'a jamais cessé de répéter à l'Amérique que si elle ne voulait pas mourir damnée, il faudrait qu'elle se souvienne pour reprendre un de ses discours. Il disait « J'ai lu quelque part que nous avions le droit de nous exprimer, j'ai lu quelque part que nous avions le droit de voter, j'ai lu quelque part que tous les hommes étaient égaux et qu'ils étaient doués de droits inaliénables et je crois que ce quelque part c'était la Constitution. »
Take my hand, lead me on, let me stand.
Martin Luther King, la sentinelle de la nation américaine, avec Sylvie Laurent, auteur de Martin Luther King, une biographie publiée au Seuil. Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice et activiste, à la fois auteur de Martin Luther King, publié dans Folio Biographie. Les extraits de ce livre étaient dits par Dominique Gould. Olivier Richaume, maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Lyon de Lumière, et William Hatton, pasteur baptiste à l'église du Chesnay. Une vie, une œuvre, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Valérie Lavalard, mixage Alain Joubert, réalisation Christine Diger, une émission proposée par Michel Pomarel.
Contre la violence, je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Dans quelques instants, le temps des écrivains. Et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le chorégraphe et danseur Roland Petit.